Bonjour Claude Habib.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste des Lumières et de Rousseau en particulier. Votre dernier essai a pour titre « Comment peut-on être tolérant ?» C'est publié chez Desclée de Brouwer. Et vous posez dans ce livre la question de la limite de cette tolérance dans nos sociétés modernes, bousculées notamment par les questions religieuses, par nos libertés individuelles également. Alors cette tolérance, on va en donner la définition, en tout cas celle que vous donnez dans votre livre, dans les premières pages. La tolérance, ça consiste, écrivez-vous, à contenir, et dans le meilleur des cas, à dépasser une aversion qui peut concerner une opinion ou un comportement, une personne ou un groupe. La tolérance se définirait donc par son antonyme qu'est l'aversion. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, je pense. Je pense qu'on a intérêt à coupler les deux, plutôt que de faire comme si la tolérance était facile, était en roue libre, était exigible de tous et ne posait aucun problème. Nous avons besoin de la tolérance dans les sociétés multiculturelles qui sont les nôtres et qui seront sans doute de plus en plus multiculturelles. C'est un acquis, mais faire croire que c'est sans difficulté, sans effort sur soi, ça me paraît de la blague. On a besoin de la tolérance, particulièrement quand on éprouve une répulsion, une aversion, une difficulté par rapport à un comportement.
Mais vous allez même loin parce que vous dites que le fait de découpler tolérance et aversion, ça engendre des monstres.
Oui, ça engendre des monstres qui sont la vanité moderne. C'est le monstre de l'amour propre. Nous, les Occidentaux, nous sommes tolérants et pas le reste du monde. Le reste du monde est peuplé de fanatiques, mais nous avons cette vertu en héritage. Et ça, ça se pratique avec l'évitement des questions qui fâchent. C'est-à-dire, on se débrouille pour habiter dans des quartiers où on est dans un entre-soi et on s'imagine être le roi de la tolérance. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que d'abord, ça exaspère les autres peuples qui se disent pour qui ils se prennent. C'est très irritant, comme toutes les vanités sans fondement. La vérité, c'est qu'il faut affronter nos répulsions. Je vais jusqu'au mot répulsion.
Oui, sauf que la répulsion, donc c'est le stade au-dessus de l'aversion. La répulsion, ça amène aussi au racisme. Les chemins sont tracés.
La répulsion, je dis pas que ça amène au racisme. La répulsion, c'est quelque chose.
Vous définissez un chemin, pas tout droit, mais un chemin qui y mène.
Oui, bien sûr que s'il n'y a pas la ceinture de sécurité de la tolérance et si on se laisse aller à ces répulsions sans contrepoids, bien entendu qu'on peut aller au racisme. Mais j'habite dans un quartier près de la Tour Eiffel où il y a beaucoup de touristes. Les touristes chinois crachent par terre. C'est vrai que j'ai un mouvement de répulsion quand il y a un crachat qui arrive tout près de moi. C'est vrai que c'est une coutume chinoise. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est plutôt les Chinois que les Chinoises. Mais bon, c'est pour eux un facteur de santé. Ils pensent que c'est bon pour le corps, que c'est hygiénique et qu'il faut cracher. Et nous, depuis Pasteur, on pense le contraire. On pense que ça répand les germes de la tuberculose, etc. Donc là, on est devant quelque chose qui provoque une répulsion immédiate. Et après, on raisonne. Et là, je crois qu'il faut tenir bon sur notre hygiène post-pastorienne et dire c'est une mauvaise coutume.
Vous rappelez aussi dans ce livre comment religion et tolérance ne font pas toujours bon ménage. Par exemple, quand l'Église catholique n'acceptait pas l'apostasie.
Oui, le problème de la tolérance se pose historiquement à partir du schisme protestant, c'est le XVIe siècle. Voilà, l'Europe est à feu et à sang, et particulièrement la France est en proie aux guerres civiles, puisqu'il y a deux versions du christianisme qui s'opposent. Et à partir de là, vous avez des édits de tolérance, vous avez le fameux édit de Nantes de Henri IV pour pacifier les troubles, mais à l'époque, ce n'est pas une vertu, c'est simplement un état de fait. Il faut contenir ces protestants. Bon, ils sont là à La Rochelle, alors on va leur donner des bastions dans lesquels ils pourront pratiquer leur culte. C'est pas du tout notre idée de tolérance qui intervient seulement en 1686,
au XVIIe siècle,
de la révocation de l'édit de Nantes, où là, vous avez vraiment une pensée de la tolérance comme un bien, comme quelque chose qu'il faut cultiver, et qui est le fait de deux penseurs majeurs,
Pierre Bayle et John Locke.
Voilà, Pierre Bayle et John Locke. Pierre Bayle, surtout, c'est vraiment pour moi un motif d'admiration que ce protestant exilé par la politique de Louis XIV et qui ne pense pas défense de mes intérêts, défense du protestantisme, mais qui pense comment faire pour toutes les religions possibles pour arriver à une coexistence.
Mais Pierre Bayle, au XVIIe siècle, c'est la reconnaissance des convictions de l'autre. Je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse sur au XVIIIe, pour le coup, avec Voltaire, dont on répète qu'il, même si on n'était pas d'accord avec les, enfin, même si lui n'était pas d'accord avec les idées des autres, était prêt à se battre pour qu'on puisse défendre ses idées qu'il ne soutenait pas. C'est une légende, ça, ou c'est avéré?
On n'a pas de témoignage écrit, donc c'est un propos qu'on lui prête. On ne prête qu'aux riches. Mmh. Il a effectivement défendu la tolérance.
Tolérance relative pour Voltaire, parce qu'en fait, il ne supportait pas les athées, par exemple.
Non, et enfin, il les supportait au sens où il était quand même ami avec Diderot et avec les encyclopédistes, mais c'est vrai qu'il lutte contre l'athéisme avec une idée qu'on retrouve chez d'ailleurs les libertins du XVIIe, qui est que si on laisse l'athéisme à la populace, pour lequel il a le plus grand mépris, hein, c'est la canaille, si on laisse l'athéisme pour la populace, là, il y aura vraiment plus aucune moralité, et il faut la peur de l'enfer pour contenir le peuple. Et si vous voulez, l'athéisme ce serait un luxe pour les élites, mais il ne faut surtout pas que le peuple y ait accès. C'est quelque chose comme ça, la position.
Je posais la question de la tolérance à géométrie variable de Voltaire pour vous poser cette question. Est-ce qu'il peut y avoir une tolérance à géométrie variable?
La tolérance doit toujours être critique. C'est-à-dire que quand vous tolérez quelque chose, vous devez vous demander si vous ne risquez pas votre intégrité. Vous ne risquez pas de vous désintégrer en tolérant quelque chose qui est préjudiciable à votre mode de vie, à votre système politique, et particulièrement, bon, vous savez qu'on ne peut pas extrémiser la tolérance, c'est un sujet de bac, hein. Faut-il tolérer les intolérants?
Ben oui, non, là c'est la limite.
C'est évidemment une limite logique.
On ne peut pas non plus tolérer la cruauté.
On ne peut pas non plus tolérer la cruauté, puisque ce n'est plus de la tolérance, c'est de la lâcheté, d'accepter de voir un type dans le métro qui donne un coup à un enfant ou à une
femme.
Sans
aller jusqu'à cette cruauté, le débat, c'est qu'il y a bien des zones beaucoup plus mouvantes, des sables plus mouvants. En France, par exemple, vous rappelez dans votre livre que la séduction en France, ça fait partie des codes admis de notre société, et en conséquence, vous estimez que le voile que portent les musulmanes, ce voile est un frein à notre liberté, à cette liberté de séduction des femmes. Et donc, pour vous, en France, nous n'avons pas à tolérer le voile islamique.
Je suis plus...
Vous êtes plus nuancée que ça dans votre livre.
Je suis plus nuancée parce que le voile a été un choc quand on les a vus. La première fois, on était extrêmement choqués. Maintenant, un voile qui transige avec la coquetterie, un hijab léger, coloré, on s'y est habitué. En revanche, des tenues rigoristes, des tenues qui mettent le drapeau salafiste sur le devant de la scène, bon, les djilbabs, les choses comme ça, extrêmement noires, ça a une signification. C'est pour ça que je parle de difficultés et de difficultés qui ne sont pas à résoudre par « j'accepte tout », c'est que ça signifie un autre rapport des hommes et des femmes, un rapport où la femme est coupable du désir qu'elle inspire. Donc, il y a la solution islamique traditionnelle, on les enferme, hein, le harem, le sérail, ou bien elle s'enferme elle-même et elle signale par le niqab, la burqa, qui sont heureusement interdits aujourd'hui, elle signale que elles sont responsables des désirs qu'elles inspirent. Alors qu'en France, l'idée, c'est que la femme n'est jamais assez désirable, elle fait ce qu'elle veut, elle met en scène sa beauté, son physique, et ça implique chez les hommes une retenue. Il y a un devoir de retenue, c'est pas parce qu'elles sont désirables, excitantes, charmantes, qu'on a le droit de leur sauter dessus.
Mais pour être tolérant, Claude Habib, il vaut mieux réfléchir à ce qui nous différencie de l'autre ou à ce qui nous rapproche de l'autre?
Quand ça nous rapproche, on s'entend, donc il n'y a pas de difficulté avec ça.
Non, mais essayer de trouver un terrain d'entente ou au contraire voir le terrain de la discorde et l'aborder d'une certaine manière.
Non, et je pense qu'il y a là des lois de la République. Le voile est permis, il est permis à l'université, il est permis dans la rue, et puis il est interdit en France dans la fonction publique et dans les lycées où on considère que le fort intérieur doit se développer.
C'est la laïcité, c'est encore autre chose.
Mais c'est la laïcité. Donc, l'actualité, on respecte les lois de la République.
L'actualité, c'est aussi Décathlon qui a respecté les lois de la République en mettant en vente un hijab dit de sport, un hijab pour courir. Finalement, face
merci
à la polémique...
Merci de dire hijab de sport, parce que hijab de running, ça me fait quand même mal aux oreilles. Je suis professeur de français. Et dans hijab de running, il y a deux qui sont français.
Pour faire du sport, ce voile qui couvre les cheveux jusqu'à bas des...
Pour dire cagoule de sport.
Cagoule de sport. Vous êtes donc d'accord avec Décathlon qui a finalement retiré ce vêtement de sport
Mais écoutez, Décathlon, ce sont des commerçants. Ils ont voulu gagner 3 sous avec une cagoule de sport. Et ils sont
aperçus... On ne peut pas leur reprocher de faire du commerce.
Non, pas du tout. Ils se sont aperçus en bons commerçants qu'il y avait une levée de boucliers qui allait du gouvernement à l'opposition. Enfin, il y avait guère que la France insoumise pour ne pas protester. Et ils se sont dit que si les Françaises catholiques, athées, protestantes et musulmanes allaient acheter leurs leggings chez GoSport, ils ne faisaient pas une bonne affaire avec leur cagoule de sport. Et ils ont retiré. Mais là, vraiment, il y aurait tyrannie de la minorité si cette expression des femmes françaises n'avait pas à se formuler pour un impératif de tolérance à l'anglo-saxonne. Je crois vraiment, c'est une particularité, c'est une singularité nationale. Mais il y a ce détail qui m'avait beaucoup frappé. Les équipages d'Air France, les hôtesses de l'air, sont les seuls au monde à avoir refusé de mettre le voile
en Iran.
En Iran. Et là, vous voyez, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des constructions sophistiquées, ce ne sont pas des lepénistes, c'est des femmes ordinaires, sauf qu'elles sont un peu plus jolies que vous et moi, qui sont offensées par quelque chose qu'elles sentent comme hostile à leur manière d'être.
Claude Habib, votre dernier livre donc a pour titre « Comment peut-on être tolérant ?» paru chez Desclés de Brouwer. Vous restez avec nous, on va reprendre cette interview, cet entretien dans un instant. À tout de suite.
Tous les dimanches à 15h sur France Inter,
Le Grand Atelier, 2h, en compagnie d'un artiste.
Vincent Josse.
Il a connu Buñuel, Louis Malle, Jacques Deray. Il travaille avec Peter Brook. Il se passionne pour la science ou la poésie iranienne. Jean-Claude Carrière.
Tout le monde me dit, mais pourquoi tu n'écris pas tes mémoires avec tous les gens que tu as connus? Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les gens que je connaîtrai qui m'intéressent.
Retrouvez le scénariste Jean-Claude Carrière dans Le Grand Atelier. Tout à l'heure, 15h, sur France Inter.
Notre invité pendant les 10 prochaines minutes, la philosophe Claude Habib, professeur de français
à Paris 3,
aidez-moi. Merci beaucoup. Votre dernier livre, Comment peut-on être tolérant, paru chez Desclés de Brouwer. Pourquoi dites-vous, Claude Habib, qu'une nouvelle page de la tolérance est en train de s'écrire aujourd'hui, en France en particulier?
Forcément, puisque avec l'arrivée de mœurs différentes, de religions différentes, nous avons un effort de compréhension de la tolérance, jusqu'où elle doit aller. Il faut y réfléchir.
On n'est plus dans comment peut-on être persan, c'est ça?
Non, au 18e, ce sont vraiment des questions philosophiques qui sont agitées. Comment peut-on être persan? C'est vraiment l'exemple type. Montesquieu imagine des persans qui viennent en France, mais il n'y en a pas en France.
Vous parliez de mœurs. On rappelle aussi que pour encadrer cette tolérance et donc l'intolérance, il y a les lois que créent nos sociétés. Or, écrivez-vous, on aura beau faire des lois, les mœurs primeront toujours.
Enfin, les lois sont n'ont pas une prise extrême sur les mœurs. Les mœurs ont leur consistance propre. Les mœurs, ce sont les habitudes des uns et des autres, c'est les manières de vivre, c'est les styles de vie. Et il ne faut pas croire qu'ils sont malléables. Et bon, dans l'imaginaire musulman, vous savez, ces idées que la France va devenir un pays musulman, là, je crois vraiment que c'est mal parti, parce qu'il y a une réalité de la résistance. Et quand on nous fait la morale en disant la mode modeste. Qu'est-ce que ça veut dire, la mode modeste? Ça veut dire que notre mode est immodeste? Non, bien sûr que non. Nous ne pouvons pas supporter qu'on nous moralise ou on imagine que la charia va tout régler. Bon, il est.
C'est pourquoi vous croyez au rôle protecteur des frontières aussi, dans cette maintien de tolérance?
les hommes ont besoin de frontières. Enfin, l'échec de l'Europe, l'échec actuel de l'Europe, c'est que les gens n'ont pas pu vivre dans une espèce de d'entité mouvante qui allait inclure la Turquie, qui allait... Bon, les gens ont besoin de pouvoir constituer un nous en se disant, voilà, nous sommes ensemble. C'est pas un désir d'unanimisme, mais c'est un désir de se représenter comme Français, Européens, de manière stabilisée.
C'est pourquoi en 2009, Barack Obama avait un discours sur la tolérance bien différent du nôtre. Il disait en 2009, à propos de l'interdiction française d'afficher des signes religieux à l'école, que c'était selon lui un manque de tolérance. La tolérance varie donc selon d'un pays à l'autre, suivant qu'il est multiculturel ou universaliste comme nous.
Mais franchement, les Américains ont une intolérance à la France qui est choquante. Qui est choquante, puisque nous sommes le mauvais objet. Dans son discours du Caire, effectivement, Obama nous donnait en pâture aux musulmans qu'il espérait séduire. Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Il n'a pas réussi son coup de charme. Mais les Américains ne veulent pas comprendre que l'histoire française est différente, que notre histoire, elle s'est construite en s'opposant à une Église catholique majoritaire dans le pays, en la renvoyant dans ses cordes et en dégageant un espace républicain laïque où il n'y aurait pas d'enseignement confessionnel. Il faut voir qu'à l'époque, l'enseignement religieux était hostile à la République et voulait une monarchie. Bon, donc la République s'est construite contre la religion en dégageant cet espace neutre, alors que les États-Unis ont le mythe qu'ils sont la terre d'accueil des religions diverses persécuté par la vieille Europe.
Donc, c'est-à-dire cette différence de paradigme, c'est simplement un pays multiculturel d'un côté et nous, universalistes, et donc ces deux sociétés s'opposent forcément.
C'est un pays qui a un autre rapport religieux. Ils sont soulagés quand ils voient des expressions religieuses parce que ça leur dit la tolérance règne. Nous, quand nous voyons des expressions religieuses, des processions, on a un certain malaise en se disant, enfin, ça doit rester quand même dans l'ordre du privé.
Eh bien, face à cela, comment peut-on être tolérant? On lira ça dans votre livre.
Il n'y a pas d'au-delà de la tolérance, hein. Ça a été aussi une découverte.
Pas d'au-delà de la tolérance, absolument.
Tout ça, on aura toujours à être tolérant, on aura toujours cet effort sur soi à fournir, et de tous les côtés.
Merci Claude Habib, votre livre « Comment peut-on être tolérant » paraît chez Desclés de Brouwer. Merci d'être venu à France Inter ce matin, et bonne journée.
Merci à vous.